Québec, Mauricie, Outaouais, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Au réseau Cogeco.
Jérôme Landry.
Jonathan Trudeau.
Trudeau.
Landry.
Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans l'édition de ce jeudi, le 15 octobre 2020. C'est Trudeau Landry. Bonjour, Jonathan.
Salut.
Salut également notre collègue Nicolas Lacroix qui est là aussi, Benjamin qui est à la mise en onde pour nous joindre en studio. Très, très, très facile si vous n'avez pas pris en note encore. Texto 25226. Donc, vous êtes les bienvenus pour commenter ce que vous entendez en onde. Et si jamais vous avez besoin d'en ajouter puis de jaser un peu avec Benjamin, pour peut-être passer en onde, on sait jamais. 1-877-670-9330.
Vous courez la chance.
Vous courez la chance.
En onde dans Trudeau Landry.
Ben, c'est que, tu sais, c'est pas une ligne ouverte qu'on fait. Je sais que pendant des années, des fois, dans les stations de radio au Québec, il y a eu beaucoup de lignes ouvertes, mais c'est pas nécessairement le concept de l'émission. Par contre, si vous avez vécu quelque chose de concret, quelque chose d'important à ajouter à la discussion, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous. Donc, 1-877-670-9330. Beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord, est-ce que tu sais, Jonathan, notre analyste politique maison, est-ce que tu sais si le premier ministre Legault, à 13h tantôt dans le point de presse, va parler de l'Halloween, l'édition 2020 de l'Halloween au Québec?
Écoute, je sais pas si il va ouvrir avec ça.
Quasiment pas le choix d'en parler, là. La docteure
Tam. Après moi, il va ouvrir avec le bilan, mais aussi futile ça puisse paraître pour bien des gens qui en ont rien à battre de l'Halloween, il y a du monde qui se pose la question. Tu sais, nous autres, un matin, on est en train de se préparer. Et là, la question qui se pose, je pense que bien des gens se la posent, c'est si l'Halloween est autorisé, nous autres, on se gouverne comment? Est-ce qu'on est plus catholique que le pape puis on dit aux enfants, non, nous autres, ça va se faire dans la maison. J'ai réservé ma chasse aux bonbons avec la bûche glacée ce matin, d'ailleurs.
Faire ça,
est-ce que je fais ça à la maison? Ou je veux pas avoir l'impression de punir mes enfants. Mais l'autre défi qui va être à surveiller, Jérôme, c'est que si au Québec, on autorise l'Halloween.
Oui.
Mais qu'il y a des endroits où c'est pas autorisé. Je pense, je regardais dans notre revue de presse à nos auditeurs de Gatineau.
Oui.
Ottawa a confirmé que porte-à-porte, il n'y en aura pas.
Ça, c'est du côté d'Ottawa.
Pour l'Halloween, exactement. Ouais. Et si à Gatineau, il y en a du porte-à-porte, est-ce qu'ils vont se ramasser avec un afflux massif?
Ben, on voit ça dans plusieurs quartiers. Il y a des quartiers.
Ouais, mais là, ça, on parle d'une région complète.
On parle d'une région complète. C'est différent. Il y a un enjeu. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça peut avoir l'air niaiseux comme sujet, mais... Cette semaine, le docteur Tam, au niveau fédéral, a comme dit que ça allait être permis.
Ah, c'est pas mêlé de ses affaires.
Ouais, bon, ça, tu peux le voir comme ça aussi, mais il reste que, quand même que je pense qu'il y aura comme pas le choix d'aborder ça aujourd'hui parce que ça s'en vient. Puis j'écoutais hier Nima Machouf. Nima Machouf, bon, au niveau politique, on s'entend pas sur rien, là.
candidat déchu de Québec solidaire.
De Québec solidaire, c'est le conjoint d'Amir Kadir, etc., etc. Mais je l'écoutais parler d'Halloween hier. Puis elle a dit, il n'y a pas de danger, là. Ce qui est dangereux, c'est les rassemblements. Si, par exemple, il y a des rassemblements, je sais pas, moi, de 50, 60 enfants quelque part, puis avec les adultes là-dedans, puis personne respecte la distanciation, puis il n'y a pas de port du masque. Ça, c'est dangereux. Mais ce qu'elle semblait dire, c'est qu'il y a moyen d'organiser une collecte intelligemment, puis qu'il n'y aura pas vraiment de risque avec ça, avec des enfants qui vont aller chercher peut-être des bonbons qui ont été déposés devant les maisons. Elle ne semblait pas voir de risque nécessairement déraisonnable avec ça.
Mon questionnement n'est pas tant sur les Halloweeneux qui peuvent transmettre la COVID. C'est le fait que tu vas te rendre à un nombre très important de portes.
Ouais.
Où il y a des gens qui, eux, peut-être, le savent même pas, vont être des asymptomatiques et vont mettre la main dans le plat à bonbons, tousser un petit peu, mettre dans le sac. Mais là, on va tousser, se licher. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, si moi je donne des bonbons, que à tout bout de champ, je suis en train de me mettre du Purel avant de mettre un petit sac, est-ce qu'on met les petits sacs en quarantaine pendant 2-3 jours pour s'assurer que tout est correct?
Mais c'est là que
pas
le
qu'il
n'y
a pas
jugement,
de solution, mais il y a quand même des questions qui se posent.
C'est là que le jugement des parents, oui, au-delà des règles, c'est là que le jugement des parents, puis que la réflexion, puis le fait de réfléchir entre en ligne de compte, Jonathan. Faut pas tomber non plus dans la peur extrême puis dans le d'être paralysé non plus par cette situation là, même si c'est à prendre au sérieux. Il y a pas de, moi je fais pas de concession là-dessus, c'est à prendre très très au sérieux. Puis des fois la ligne est mince entre prendre ça au sérieux puis tomber dans la peur. Moi je voudrais pas qu'on bascule dans la peur qui paralyse complètement la société non plus. Puis pour ce qui est des enfants, moi ce que je vois depuis deux fins de semaine, je sais pas ce que les gens qui nous écoutent dans les zones rouges ce matin ont observé autour d'eux autres. Mais concernant les enfants, puis bon, disons ce qui se passe les fins de semaine quand ils sont peu à l'école, Moi, ce que je vois autour de moi, Jonathan, c'est des parents qui respectent les règles, mais qui ont aussi du jugement, qui sont aussi capables de faire la part des choses entre la peur et entre le respect des règles. Puis je pense qu'on doit appliquer ça aussi à l'Halloween. Il faut réfléchir aussi. On verra quelles seront les règles et les directives. Tout ça va se produire aussi après le 28 octobre. Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, de dire, on va faire exactement la même tournée que d'habitude? Autant de maisons, autant... C'est sûr que non. Mais ça, est-ce qu'on a vraiment besoin du gouvernement pour nous expliquer ça? Je pense que le gouvernement, oui, va probablement émettre certaines balises, mais il faut aussi servir de nos têtes, un peu comme parents, je trouve. Calculer les risques et évaluer les risques
c'est
aussi.
Ça. Mais dans ce cas-ci, j'ai un peu de difficulté à l'évaluer. C'est-à-dire que mes enfants peuvent pas pratiquer leurs activités physiques, sportives, organisées, mais je les enverrais cogner à 75 portes.
Ouais.
Et voir 75 personnes. Parce que c'est pas vrai que tout le monde va donner des bonbons avec un gros pipe ou avec un bâton de hockey. Là.
Mais tu parles des activités sportives organisées, c'est une chose. Moi, je t'annonce que les enfants, ce que je vois autour de moi, ils en font du sport dans la rue, là, présentement. Là, puis c'est correct comme ça aussi. Il y a moyen de le faire en réfléchissant, puis en étant intelligent aussi, puis avec du jugement. Moi, je pense qu'il faut aussi que ça continue. On comprend que le sport organisé a été mis sur pause, mais il faut se laisser le loisir de réfléchir aussi. Et de ne pas sombrer et de basculer dans la peur et dans l'hyper-anxiété tout en respectant les règles. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est un défi, d'être sur la ligne entre les deux.
T'as raison, mais en même temps, si je vais être cohérent avec ce que je te dis depuis le début de la semaine, quand on regarde des endroits où ils ont été très, très stricts, ou même les régimes politiques s'apparentent davantage à des dictatures, à des autocraties qu'à des démocraties, si on regarde à quel point, des fois, ils ont été plus efficaces dans leur capacité à juguler la crise, et que je le compare avec ce que nous autres, par exemple, on peut faire, dire, je vais accepter, moi, que mon enfant va fréquenter des enfants qui sont pas dans sa bulle de classe, parce que c'est une question de jugement. Ça veut pas dire que ça contribuera pas à faire durer un peu la crise aussi.
Ouais, en même temps, j'ai pas entendu aucun pédiatre dire qu'il y avait que les enfants étaient un facteur de risque important. Je n'ai pas entendu.
Les plus grosses éclosions, c'est dans les écoles.
Oui, mais pour ce qui est de causer des hospitalisations, tu sais, ce qu'on essaie de protéger, ce qu'on essaie d'éviter actuellement, je le vois pas. Je suis bien ouvert à entendre ces avis-là, mais je pense que quand tout ça se passe avec jugement, pis avec intelligence, distanciation sociale, port du masque, il y a moyen que les enfants avaient. En tout cas, on verra tantôt, c'est à 13h cet après-midi, il n'y a pas eu de point de presse hier, on verra ce que le premier ministre.
Mais Jérôme, quand on parle du jugement des gens, là, je vais donner un exemple qui pour moi est évident. Là. Mm-hmm. Je lisais, je pense que c'est vendredi ou samedi, que il y a des policiers qui décourageaient des gens d'aller faire du, excusez-moi, je vais utiliser l'expression anglaise parce que je la trouve sympathique, du leaf-peeping. En auto. Il disait, allez pas vous promener en auto pour voir les couleurs. Si je pars de chez nous, que je débarque pas de mon auto,
ben là,
que
ça.
Je fais une run d'une heure et demie avec des enfants puis ma blonde parce qu'il y a rien d'autre à faire, puis parce qu'on veut juste voir les couleurs, puis on s'est fait un petit café avant de partir, un petit jeu qu'une collation pour les enfants, puis que je reste dans mon auto, que j'arrête pas dans un restaurant, dans une station-service, dans un commerce d'une région limitrophe à la mienne. Je m'excuse, mais à un moment donné, faut pas être débile non plus.
Ben, c'est ça, mais c'est pour ça que je te parle de la ligne entre le respect des règles, la prudence, prendre ça au sérieux et le fait de basculer dans de l'hyper-anxiété puis de la peur un peu déraisonnable aussi, là. C'est un concept qui est pas nécessairement, qui a pas l'air nécessairement facile toujours à maîtriser. Mais je pense qu'on est, je pense qu'à la gang, on est capable de le faire. Je pense qu'on est, très, très bien capable. OK. Il est 10h, presque 9. Mais une chose qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi au procès de Gilbert Rozon. On va passer à notre invité dans les prochaines secondes, là. Mais juste une petite parenthèse pour vous dire qu'on va surveiller ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je vois certaines manchettes, là, passer où on nous dit que c'est la fin du contre-interrogatoire de Rozon. Là, je ne sais pas s'il a été. Ça me surprendrait qu'il ait été contre-interrogé longuement ce matin. Là, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe actuellement au Palais de justice de Montréal. Mais bref, Gilbert Rozon a témoigné hier en défense en disant j'ai été la victime là-dedans. Alors qu'il y a une victime alléguée qui a porté plainte contre lui. Il y a des accusations qui ont été déposées par le DPCP. Là, il y a un procès. C'est la seule, d'ailleurs, des plaignantes, pour qui il y a des accusations criminelles qui ont été retenues là dans toutes les dénonciations à l'endroit de Gilbert Rozon. Donc, j'imagine que le DPCP a un dossier solide. Et hier, Sincèrement, Gilbert Rozon, je suis pas sûr qu'il s'est fait beaucoup d'amis. Je suis pas sûr qu'il a impressionné la juge non plus dans ce procès-là en disant que c'était lui la victime. Que Manny s'était réveillé puis que c'était la victime qui était sur lui à Califourchon. Et puis que c'était comme laissé faire, parce que bon, c'est une espèce de victime consentante, là, le terme qu'on peut employer. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on est on va le contre-interroger ce matin, Gilbert Rozon. Et je pense que c'est beaucoup là que ça va jouer. Parce que là, on a deux versions qui sont totalement contradictoires. Et l'issue de ce procès-là va dépendre du travail qui sera fait par la couronne en contre-interrogatoire. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails dans son récit pour quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. Pensez à votre vie en 1980, là, les détails de telle journée, puis quand je me suis réveillé, j'étais dans telle position. J'ai hâte de voir le contre-interrogatoire. Donc, Jonathan, on va aller discuter avec le nouveau ministre responsable des Affaires autochtones.
Oui, absolument. Un homme bien occupé, mais qui prend quelques minutes pour nous parler. Yann Lafrenière, député de Vachon et ministre responsable des Affaires autochtones, conjoint au bout du fil. Monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour à vous deux.
Tout d'abord, félicitations.
Ben merci beaucoup. C'est bien gentil. Ça va pas tout à fait une semaine, fait que c'est encore tout nouveau.
Ouais. Hey, dites-moi, j'ai été surpris la journée de votre nomination de voir que assez rapidement il y avait des commentaires qui émergeaient sur les médias sociaux, puis bon, même par certaines voix officielles qui même s'offusquaient du fait que c'était un ancien policier qui était pour être le ministre responsable des Affaires autochtones. Bon, on sait qu'il y a eu des enquêtes, on pense à Val-d'Or avec la Sûreté du Québec et tout ça. Je me disais, M. Lafrenière, il était porte-parole au SPVM, et j'étais un peu surpris. Vous, avez-vous été surpris ou vous l'aviez anticipé?
Est-ce que j'étais surpris de la façon que ça a sorti un peu? Est-ce que je m'y attendais? Je vous répondrai un peu aussi. Écoutez, après avoir fait 28 ans dans la police, ça me surprend pas non plus. Hein. C'est polarisant, il y en a qui sont d'accord, d'autres moins. Mais d'un autre côté, moi, je me dis, c'est de la limite du profilage. Là. Oui, j'ai été policier, j'ai pas fait de crime, j'ai fait une carrière que je trouve très intéressante, j'ai servi les citoyens. Mais Yann Lafrenière, oui, il a été policier. Yann Lafrenière, il est toujours dans les Forces armées, il est militaire, travaille beaucoup avec les Rangers. J'ai fait plusieurs missions. Donc, mon background, il est beaucoup plus que ça. Là. Puis, je mets pas de côté ma carrière policière, mais pas du tout. Entre autres, ça m'a amené à travailler avec les Premières Nations. C'est comme ça que j'ai tissé des liens importants, parce que il y a une dizaine d'années, j'avais décelé qu'il y avait une problématique au centre-ville de Montréal, où les policiers connaissaient peu la réalité des Premières Nations. Je m'étais déplacé à Wimotachi pour faire un échange entre des policiers de Montréal et des policiers de Wimotachi. Et c'est comme ça que j'ai connu les Premières Nations. Alors moi, je pense qu'au contraire, ça m'outille pour bien connaître la réalité, mais qu'on me juge aux actions, on regardera ce que je vais faire, puis les gens auront la possibilité de dire s'ils sont d'accord ou pas avec mes actions, mais pas me juger sur mon background parce que j'ai déjà été policier.
Comment vous interprétez le mandat que vous venez de recevoir, monsieur le ministre? Parce que j'ai l'impression que le mandat que plusieurs voient en vous, c'est d'essayer de régler le problème du racisme systémique. Encore faut-il le définir, encore faut-il le reconnaître. Est-ce que ça fait partie du mandat que vous avez reçu d'essayer de faire avancer, sans tout régler, mais d'essayer de faire avancer justement les problèmes reliés au racisme systémique s'il existe?
C'est ce que j'allais vous dire comme mandat, ce serait épeurant hein, de changer plus de 150 ans d'histoire, ce serait vraiment difficile, mais de s'attaquer au racisme, à la discrimination, au profilage, la réponse est oui, parce que ça fait partie de tous les enjeux. Je vais vous donner un exemple, présentement j'ai un dossier important qui est dans le parc de la Vérendrye pour la chasse à l'orignal, et vous allez me dire, ça n'a pas de rapport avec la discrimination, le racisme, mais je vous dirais que quand on négocie, quand on tente de trouver des solutions, il faut voir plus que l'arbre, il faut regarder la forêt au complet, puis se dire, bon, ben regardez, on va regarder ensemble de quelle façon on peut travailler, on peut faire du développement commun, puis arrêter de travailler chacun de notre côté, puis oui, l'enjeu de la discrimination puis du racisme, ben il est mentionné à chaque fois, fait que ça va faire partie d'après moi de toutes mes discussions. Moi, dès ma nomination vendredi, j'ai contacté les chefs, les grands chefs, pour établir un lien de respect entre nous. Et j'ai même décidé de ne pas sortir dans les médias. Vous me connaissez, je suis très disponible pour les médias, mais j'ai décidé de ne pas sortir dans les médias. Je préférais parler à mes interlocuteurs en premier. Et là, mais je suis disponible pour vous parce qu'on va être très transparent aussi.
Mais je sais qu'on ne veut pas faire de débat de sémantique. Votre premier ministre le dit souvent, mais qu'est-ce qu'il y a de si problématique avec l'emploi du terme systémique, que ce soit racisme systémique? Certains ont parlé peut-être d'un entre-deux, de parler de discrimination systémique. J'ai de la difficulté à concevoir qu'on ne soit pas capable de le reconnaître, alors que dans les faits, même le premier ministre dit, ben oui, c'est vrai, on le voit dans certaines institutions, on peut le voir dans le système de santé, au niveau du profilage, des fois avec les policiers, etc. Mais c'est quoi ça si c'est pas du racisme systémique? Puis quelque part, M. Lafrenière, je me dis, l'exemple que je donne toujours, c'est un alcoolique qui n'est pas capable de commencer par reconnaître qu'il a un problème de boisson, ne réglera jamais son problème. Donc, pourquoi ne pas reconnaître ce fait-là sans dire que nous sommes tous des racistes? Ça veut pas dire ça, mais qu'il y a quelque chose qui est ancré dans certains aspects de notre système, de notre société, et qu'il faut s'y attaquer.
Mais j'aime votre comparaison, parce que oui, il faut reconnaître qu'il y a un problème, puis je pense qu'on l'a dit, ça fait longtemps, puis je l'ai dit quand j'étais au SPVM aussi. Est-ce qu'il y a du profilage? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a de la discrimination? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a du racisme? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes? La réponse est oui. Vous savez, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe d'action contre le racisme, où on doit proposer non pas des observations, mais vraiment des actions pour faire changer la situation au Québec. Et les spécialistes qu'on a reçus s'entendent pas sur le terme. Fait que nous, on a pris une décision, c'est de dire, est-ce qu'on va vraiment embarquer, puis le terme, le débat sémantique, débat de mots est là, est-ce qu'on va embarquer dans un débat de mots où on va plutôt s'attaquer au racisme? Ben, c'est la décision que j'ai eue avec les chefs, les grands chefs, en disant, regardez, présentement, là, on s'entend pour dire qu'il y a du racisme, on s'entend pour dire qu'il y a des changements qu'on doit faire, mais le racisme systémique, l'autre danger à ça, non seulement que les gens s'entendent pas sur le terme, donc on peut partir sur un débat qui, entre vous et moi, changera pas la réalité sur le terrain. Et deuxièmement, je vais donner l'exemple de Joliette. Moi, les propos que j'ai entendus, ce que j'ai vu, ça m'a choqué énormément. La preuve, j'étais sorti dans les médias sociaux cette journée-là. Mais je me dis, bon, oui, on a un système qui a failli. On a un système qu'on doit revoir, qu'on doit voir comment on peut faire mieux. Mais on faut pas enlever la responsabilité individuelle non plus. Les gens qui étaient sur place, infirmières, préposés, eux aussi ont une responsabilité de venir dire, ben écoutez, c'est pas vraiment moi, c'est le système qui m'a dicté de faire ça. Fait, vous voyez, on est dans l'entre-deux, mais au final, là, ce qui est très clair, on a un problème. On a un problème sur le terrain. Puis moi, l'engagement que j'ai pris avec les Premières Nations, c'est d'amener des changements qui vont être perceptibles, qui vont être visibles sur le terrain. Fait que oui, les termes, c'est important. Vous dites qu'il faut commencer par le reconnaître pour être capable de travailler dessus. On reconnaît qu'il y a une problématique, on s'entend juste pas sur le terme.
Mais évidemment, vous faites référence à ce qui s'est passé à Joliette, puis bon, je pense que c'est ce qui a lancé le débat ici au Québec. Si ce n'est pas du racisme systémique, qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment précis-là? Est-ce que ce sont des employés racistes? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-tu du profilage? Comment on peut décrire ce qui s'est passé avec cette femme-là qui est morte sous les insultes racistes?
Mais probablement, comme vous savez, il y a des enquêtes qui ont cours présentement pour trouver ce qui est arrivé, mais je vais quand même me mouiller en vous disant que, regardez, est-ce qu'il y a de la méconnaissance? Moi, je pense que oui, puis je vous dirais, mon expérience policière m'aide là-dedans, parce que je l'ai vu sur le terrain, je l'ai vu avec des collègues policiers aussi. Il y a de la méconnaissance. Il y a de la méconnaissance, puis là-dessus, vous allez voir les actions que je vais proposer dans les prochaines semaines, parce que ça va arriver quand même assez vite. Mais c'est des choses vraiment terre-à-terre, c'est du pragmatisme, là. C'est de faire en sorte qu'on se parle, qu'on échange d'informations, puis quand il y a un problème, qu'on le règle à la source, qu'on n'attende pas que ça devienne plus gros. Et dans ce cas-là, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, mais c'est clairement là des propos qui étaient insupportables, mais est-ce que ça part d'une méconnaissance? C'est ce que nos enquêtes vont nous permettre de découvrir, là. Qu'est-ce qui s'est passé à la base? Pourquoi on en vient à agir comme ça avec un être humain, alors que ce sont des gens qui ont la vie, notre vie, entre leurs mains, là?
L'autre drame qui fait beaucoup parler, particulièrement ici, évidemment, dans la région de Québec, c'est le drame de Wendake. On apprend dans les toutes dernières minutes que votre collègue Lionel Carman a choisi la criminologue Michèle Dionne pour piloter l'enquête externe sur la DPJ de la Capitale-Nationale. Est-ce que vous allez suivre l'évolution de ces enquêtes-là avec une attention toute particulière? Parce qu'on a posé la question au grand chef Conrad Sioué, à savoir, est-ce qu'on a l'assurance morale qu'un jeune qui fait l'objet d'un signalement dans une communauté autochtone reçoit la même attention, un service d'une qualité égale que n'importe quel autre jeune? Et le grand chef, si oui, a dit j'espère que oui en passant. Il n'a pas affirmé quoi que ce soit, mais est-ce que vous allez suivre ça de près pour s'assurer qu'au-delà des problèmes globaux de la DPJ, on s'assure que dans les communautés autochtones, il y a un service qui soit optimal là aussi?
Ben oui, la réponse c'est oui. Comme vous savez, je suis moi-même père de deux jeunes filles, 11 ans, 12 ans. Vous savez qu'une commission présentement, la commission Laurent, et j'ai eu le plaisir de parler à Mme Laurent là, dans le cadre de la commission spéciale que je présidais là, sur l'exploitation sexuelle des mineurs, et je suis ça de très, très près, parce qu'effectivement, il faut Il faut toujours rester sur nos gardes, il faut toujours questionner ce qui se passe, les systèmes, les revoir, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Puis moi, dès que c'est arrivé, ce drame-là, ben j'ai contacté le grand chef, j'ai offert tout notre support, le support de mon collègue Lionel Carman, qui avait une équipe qui était disponible, une équipe du CIUSSS qui était prête à aller sur place, parce que le drame est incroyable pour la famille, les proches, mais il y a des dommages collatéraux. Les gens de la communauté, ça vient les toucher. Imaginez, là, ceux qui travaillaient avec la maman, les autres enfants qui ont côtoyé ces victimes-là. Faut vous imaginer, moi, je l'ai vécu beaucoup comme policier sur le terrain. Il y a des dommages collatéraux, puis dans ce temps-là, mais il faut être présent, il faut être à l'écoute. Alors, ça, on le fait, et en passant, il y a des gens qui m'ont questionné à savoir pourquoi je ne m'étais pas déplacé. Ben, je vais vous avouer que présentement, ma job n'est pas facile. Je suis dans une période de COVID. Fait que j'ai parlé au grand chef, j'ai dit, écoutez, on offre l'aide et tout. Il y a deux choses. Un, si c'est nécessaire, je vais descendre, puis je vais t'appuyer là-dedans, puis c'était pas nécessaire à ce moment-là. Et deux, moi, comme policier, ce que j'ai vécu aussi, puis ça, je vous le dis en toute honnêteté, j'en ai vécu des drames comme le collège Dawson, quand il y a eu la fusillade, et j'en ai vu des gens qui ont débarqué, puis sans méchanceté, qui venaient se faire du capital ou qui venaient faire un petit peu du tourisme pour démontrer qu'ils étaient là. Puis moi, excusez-moi, là, les intérêts qui sont les plus importants, c'est les gens sur place, c'est pas les miens. C'est pas une opération de relations publiques, là. On y va pour les vraies raisons.
Mais pour ce dossier-là, on reviendra peut-être tantôt, là, dans l'émission, mais il semblerait, selon le Journal de Québec, le Journal de Montréal, que Chicoine, l'accusé là-dedans, il retournait pas ses appels non plus. Il y a de l'aide qui lui avait été offerte, puis semble-t-il qu'il retourne pas les appels, puis tout ça, mais on reviendra peut-être. Je veux vous entendre, M. Lafrenière. Je sais pas si vous avez vu hier l'entrevue de votre prédécesseur Sylvie Damour à Radio-Canada hier avec Véronique Prince. Je vais vous citer un bout du reportage. Elle se désole que les 200 millions de dollars prévus pour donner suite aux recommandations de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec n'ont pas encore servi. Le 200 millions, là, je sais que le premier ministre en a parlé aussi, mais c'est quoi ça, ce 200 millions-là, et à quoi ça peut servir, et en quoi l'argent peut aider justement à lutter contre le profilage, contre le racisme ou encore contre le racisme systémique?
Bon, mais plusieurs choses. Premièrement, j'ai entendu ma collègue Sylvie hier. Puis en passant, moi, je l'ai accompagnée dans plusieurs événements. Puis je peux vous confirmer que c'est une femme de cœur. C'est une femme qui avait à cœur les relations, qui a fait beaucoup de choses pour améliorer ces relations-là. Puis je l'ai entendu hier. Ouais. Puis je dois vous rajouter que c'est une grande dame, parce que son entrevue, par la suite, on comprend là, que c'est pas un épisode qui est facile pour elle, et j'ai trouvé que c'était une bonne entrevue. Et lorsqu'on parle, qu'on fait référence à ces sous-là, mais probablement c'est sur 5 ans, donc c'est une somme qui a été dégagée pour mettre en application, pour avoir des retombées concrètes sur le terrain.
Comme là, quoi, mettons?
C'est ça le problème. Dès que je vais arriver dans le concret, je vais me scooper moi-même les annonces que je vais vous faire très prochainement. Prenons rendez-vous ensemble, parce qu'on va se parler prochainement. Moi, je vous le dis, vous avez entendu le premier ministre vendredi passé. Je pense que c'est sans équivoque qu'il veut de l'action.
Mais au-delà des annonces, ça ne prend pas juste l'argent. Au-delà des annonces, M. Lafrenière, au-delà des annonces, je comprends que vous ne voulez pas scooper ça, mais est-ce que de l'argent peut vraiment régler ce problème-là ou aider à le régler?
Oh non, l'argent ne réglera pas tout, mais l'argent, ça aide. L'argent, ça aide à mettre des choses en place. Et ce que je veux, c'est des choses très terrain. Puis quand j'ai eu des discussions avec les chefs, les grands chefs, j'ai dit, un, on va le faire ensemble, parce que ça, c'est l'autre enjeu. Hein. On peut faire des beaux plans dans nos bureaux puis les imposer. C'est pas la solution. Il faut le travailler ensemble. Mais il faut trouver des actions, des gestes qui vont amener un vrai changement. Vous parlez du système de la santé. Je vais vous en donner juste assez pour vous dire que, d'après moi, les premières annonces vont toucher au système de la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette relation-là, cette confiance-là, pour que nos personnes des Premières Nations qui sont soignées, mais aient confiance dans le système, qui aient confiance qu'ils vont se faire traiter, soigner, comme tout le monde. Alors, c'est des actions comme ça. Fait que vous avez raison que c'est pas juste l'argent. Et c'est pour ça, tantôt, je parlais de mes connaissances. Moi, j'ai une job de rapprochement, oui, d'établir des liens entre les nations, mais aussi de défendre cette méconnaissance-là. Parce qu'au final, là, on veut tous la même chose. Hein. Puis c'est là que je revenais à du développement ensemble. On va bâtir des choses ensemble.
Loin-moi l'idée de faire le procès de votre prédécesseur, mais vous soulignez son travail, ses qualités. Bon, bien des gens se sont désolés du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de choses qui ont été mises en place suite à la publication du rapport Vient il y a un an de ça. Mais Mme Damour, donc votre prédécesseur, dit que c'est parce que les Autochtones voulaient pas aller aussi vite qu'elle, dans le fond, qu'elle aurait voulu aller plus vite, mais qu'il fallait aller à la vitesse des Autochtones. Est-ce que vous partagez cette lecture-là de la situation?
La compréhension, je l'ai entendu, ma compréhension lorsqu'elle parlait de le faire à une vitesse différente, moi, ce que j'ai perçu, c'est de pas l'imposer. Moi, ce que j'ai perçu, c'est ma vision aussi. On peut arriver, comme je l'ai dit, faire un beau plan en 12 copies qui nous font bien plaisir parce qu'on paraît bien. Mais si on l'impose, écoutez, c'est le début de la fin, là. Faut travailler comme il faut, on va le travailler ensemble. Puis moi, je vous le dis, j'ai parlé au chef, au grand chef, ils ont cette même volonté-là. On va livrer. Vous me jugerez à nos livrables. Puis je sais que je me mets beaucoup de pression sur ses épaules, mais on n'a pas le choix. Et je terminerai en vous disant que la semaine passée, quand j'ai été nommé, j'ai vraiment contacté l'ensemble des députés, les gens de l'opposition, en disant, écoutez, on peut pas faire de la politique sur le dos des relations avec les Premières Nations. On doit travailler ensemble. Et j'ai eu vraiment une belle réponse des porte-parole des oppositions, que ce soit Pascal Bérubé, Manon Massé, Greg Kelly, de dire, regardez, on va travailler ensemble, on va le faire ensemble.
Merci, M. Lafrenière.
Hey, merci à vous deux.
Bonne chance. Bonne chance, bon succès. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones. Tu sais, Jonathan, je pense que c'est un ministre solide, convaincu qu'il va faire un très, très bon travail. Mais en même temps, lutter contre le racisme, systémique, lutter contre l'ignorance, lutter contre la peur de l'autre, lutter contre des situations qui existent depuis 400 ans, bien que l'intention est légitime, puis ça doit se faire. C'est comme dire, on va essayer d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Là. C'est un chantier énorme. Là. Est-ce qu'un seul homme peut régler ça en quelques mois? Pas sûr de ça. Puis ce qui me gosse, ce qui me chicote, je devrais dire là-dedans, c'est qu'on dirait que le 200 millions, il est important là-dedans. Le 200 millions semble être la clé à la solution. Donc, j'ai encore plus de doutes sur une solution
dépend,
à court terme
ça
là-dessus.
Ça dépend. Puis je comprends ta réticence, puis c'était absolument pertinent qu'on pose la question. Là où j'aurais la difficulté, c'est si on disait le 200 millions va être, par exemple, partagé de façon équitable dans les communautés autochtones, ouais. En disant, regardez, on vous envoie un chèque en espérant que ça règle vos problèmes, c'est sûr que non. Par contre, si on parle de sommes d'argent qui vont servir à mettre en place, par exemple, des programmes de sensibilisation, des campagnes de publicité, je sais, peu importe ce qu'on pourrait faire comme sensibilisation, parce que si on dit qu'il y a des réflexes, de racisme qui des fois sont même inconscients. Si on veut commencer par défaire ça, ça passe beaucoup par le dialogue, là, par les sensibiliser. La ceinture au volant, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris des campagnes, puis un moment donné, ça vient s'intégrer dans la façon d'agir, dans notre façon d'être. Si l'argent sert à ça, avoir des programmes d'accompagnement, de soutien, d'aide, d'encadrement, OK. Mais pas juste des chèques en disant on va vous donner de l'argent, ça va aller mieux.
Là. Faut pas juste que ça serve à créer des belles jobs aussi, là. Des belles jobs de gens, d'intervenants qui, oui, peuvent faire un bon travail. Mais c'est un problème, on va se dire les vraies choses, là. C'est une situation qui perdure depuis 1534. Là. Je veux dire, c'est des problèmes qui durent depuis des centaines d'années. Est-ce qu'on évolue? J'espère. Je suis pas toujours sûr que c'est le cas, qu'on évolue tant que ça, par contre. Parce qu'il y en a même qui vont dire que la création. Moi, c'est pas mon opinion. Je vous rapporte ce que j'ai entendu, ce que je lis depuis quelques jours là-dessus. C'est qu'il y en a même qui vont aller jusqu'à dire que la création des réserves pour les Premières Nations, que ça en est, ça, du racisme systémique. Que de dire que tel ou tel peuple va vivre dans une réserve, puis que ça va être. Il y en a qui vont dire que ça en est aussi. Fait que je peux-tu vous dire que le chantier est pas simple? Puis ce que j'ai peur, c'est que maintenant, on nous annonce voici 200 millions. Puis là, après ça, regarde, on n'en parle plus pendant des années. Que le 200 millions. Mettre fin au débat alors que...
Non, il faut voir quelque chose de concret.
Parce que changer des mentalités, ça passe certainement pas uniquement par un chèque de 200 millions. Juste avant la pause, pour les gens qui nous écoutent en Beauce, il y a un accident majeur, à ce qu'on me rapporte, dans le coin de Sainte-Marie-de-Beauce. On me parle de 4 blessés, un code 99, femme âgée, donc, qui aurait été blessée très sérieusement, donc 4 personnes blessées.
C'est quoi un code
99? Sur le boulevard Vachon, c'est un niveau d'alerte très, très, okay. Très, très élevé. Donc, boulevard Vachon, Sainte-Marie, accident majeur. Oui, Benjamin?
C'est 3 véhicules qui sont impliqués dans ce secteur-là. C'est à l'angle de la route Carter et du boulevard Vachon Sud. Le secteur est fermé à la circulation présentement parce que les requestionnistes de la Sûreté du Québec sont sur place.
C'est ça, donc on verra la suite. 10h27, 25226, texto pour nous joindre. Vous êtes dans Trudeau-Landry.